Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous propose de continuer. Voilà, on a fait une pause depuis la semaine dernière sur notre grande thématique de l'année. Et la semaine dernière, nous avons pu parler du Seigneur qui pourvoit. Avec l'exemple de Abraham et Isaac et le sacrifice que Dieu va demander à Abraham et ce Dieu qui pourvoit. Et ce matin, je voudrais vous entraîner du coup. C'est un peu une continuité, du coup, mais qui se ressemble. Et j'ai intitulé le titre de ce message « Quand une petite foi rencontre un grand Dieu ». Pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée au début du XXe siècle, 19e plutôt, 19e siècle. C'est l'histoire de Gladys Aylward. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. C'est une missionnaire qui était missionnaire en Chine. Elle était, voilà, c'était une petite chrétienne anglaise qui payait pas de mine. Quand on la voyait, voilà, elle passait un peu inaperçue. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Et pourtant, elle avait reçu dans le fond de son cœur quelque chose de la part du Seigneur d'aller en Chine, être missionnaire là-bas, et elle savait pas dans quoi, mais en tout cas de se lever et de partir. Elle va contacter, comme c'est habituellement le cas, hein, c'est comme ça que ça se passe, une société missionnaire qui va manquer de discernement, malheureusement, ça peut arriver, et qui va lui répondre, je pense peut-être un peu en la voyant, tu n'as pas les capacités pour être missionnaire, tu n'as pas le profil typique d'un missionnaire, d'une missionnaire. Et cette femme ne va pas se décourager, puisque cette conviction, elle l'avait de Dieu, et elle va partir du coup en Chine par ses propres moyens. Ce qui est très courageux. Avec ses petites économies qu'elle avait faites, elle va partir seule en train jusqu'en Chine. Vous imaginez le trajet, hein. Faut être motivé. Et là-bas, Dieu va l'utiliser pour sauver des enfants abandonnés et elle va ouvrir un orphelinat pendant la guerre qui va se passer entre la Chine et le Japon, pour les mettre en sécurité. Elle va mettre en sécurité comme cela des centaines d'orphelins. Et un jour, du coup, à son retour en Angleterre, un journaliste va lui demander, finalement, comment vous avez fait, vous, une petite femme, sans moyens? Et elle va répondre cette phrase, je n'ai jamais eu une grande foi dans ma vie, mais j'ai une petite foi dans un grand Dieu. Et c'est ce qui compte. Et ce matin, pour nous, c'est l'occasion de pouvoir nous rappeler cela, et je vous invite à ouvrir la parole. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 17, versets 14 à 20. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 20, c'est sans doute un passage que vous connaissez, que nous allons du coup étudier ce matin. Matthieu chapitre 17, les versets 14 à 20. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Jésus s'exclama alors, vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir, et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi juste d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Nous nous ouvrons. Viens encore nous édifier, consolider notre foi, mon Dieu, nous reprendre si besoin. Je veux, mon Dieu, nous remettre dans tes mains et croire encore que ta parole fait le même effet. Cette parole vivante, mon Dieu, est capable de restaurer pleinement nos vies, Père. Amen. Un texte que vous connaissez sans doute? Alors j'ai choisi ce texte dans Matthieu puisque en fait dans les évangiles il est question trois fois. C'est pas la même histoire d'ailleurs à chaque fois. Il y aura une fois avec un démon, une fois avec un figuier et une fois avec Jésus qui chasse les marchands du temple. Donc voilà. Alors on ne sait pas si c'est la même histoire à chaque fois puisque mais on étudiera les autres textes peut-être une autre fois, on verra. Mais en tout cas, sur ce passage-là, c'est une histoire assez forte qui peut poser question d'ailleurs. Et sur ce texte-là, en le relisant, je me suis posé beaucoup de questions. Et la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui déplace vraiment les montagnes ? Est-ce que c'est notre foi en nous-mêmes ou dans le Dieu en qui nous plaçons notre foi ? Ouais, c'est facile, hein ? C'est notre foi en Dieu. C'est pas notre foi en nous-mêmes ou en nos capacités à croire. C'est notre foi en Dieu, dans la confiance que Dieu est capable d'agir. Ce n'est pas du coup la taille de notre foi, Jésus va le rappeler, mais sa direction vers le Christ qui rend l'impossible possible. Et j'ai intitulé mon premier point, une foi impuissante sans Christ. Sans Christ, la foi devient stérile, impuissante, elle n'agit pas. On voit dans ce texte un père qui va amener son fils aux disciples. Il l'amène pas tout de suite à Jésus, il l'a déjà amené aux disciples, et il l'amène à Jésus parce que ça n'a pas marché. Pourtant, ses disciples, ce ne sont pas des gens dans la foule, hein. Ils croient en Jésus, ce sont des chrétiens. Mais ils vont être incapables de le guérir. Pourquoi, à votre avis ? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé ? Est-ce que Dieu dormait ? Est-ce que c'est eux qui ont mal prononcé une prière ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche pas ? Vous avez une idée ? Oui, Isabelle ou Jacqueline ? Je crois que c'est Isabelle qui a levé la main. Le doute ? Ouais. Le doute ? Autre chose ? L'incrédulité. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'incrédulité ? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est le manque de foi, tout à fait. Est-ce que vous pensez du coup que les disciples, ils avaient perdu la foi en Jésus lorsqu'ils ont prié pour ce garçon ? Moi, je pense pas non plus, sinon ils auraient pas prié. Oui, Isabelle. Oui, c'est une des réponses. Alors la vraie réponse, c'est la réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure. En fait, ils croyaient toujours en Jésus. C'est pas la question. La question et le vrai problème, c'est qu'ils avaient déplacé leur confiance en Dieu vers eux-mêmes. Ce qui s'est passé, c'est quelque part, c'est pas qu'ils ont perdu la foi. Ça veut pas dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu, qu'ils étaient devenus athées le temps de cette prière, mais qu'ils n'ont pas dépendu du Seigneur dans l'instant présent. Ils ont probablement compté sur leurs habitudes, parce qu'il faut rappeler que, avant cette histoire, les disciples avaient déjà guéri en Matthieu chapitre 10. Du coup, bien avant, ils avaient déjà opéré un miracle. Jésus va déjà les envoyer en mission, et ils vont opérer. Du coup, des miracles que Jésus va opérer au travers d'eux. Et peut-être, en tout cas, c'est les commentaires que font les théologiens sur ce texte, que ces chrétiens-là, ces disciples, avaient pris une dépendance vis-à-vis de Dieu, une habitude. Quelque part, ça a marché une fois, maintenant, allez, c'est moi qui fais et ça va marcher. Et je fais mon habitude, ma routine, je prie comme ça, je fais comme ça. Et je pense que c'est Dieu qui va guérir, mais au fond, en réalité, c'est pas en Dieu que je mets ma confiance. C'est dans ma capacité à faire. Et bien souvent, comme la dernière fois, la semaine dernière, on croit que Dieu pourvoit, mais dans la réalité, on manque de foi, on doute. Là, c'est exactement la même chose. On peut dire, et on croit tous, que c'est Dieu qui guérit, et concrètement, quand il s'agit de mettre notre foi en action, on va essayer quand même d'aider le Seigneur. Alors ça peut être différentes choses, hein, en prenant une habitude de prière que l'on ne fait pas normalement, peut-être en se disant, allez, peut-être que si je prie 10 heures d'affilée, il y aura plus d'effet, comme si ça avait un effet particulier. Et du coup, quelque part, il y a une confiance en Dieu qui est à moi. On essaye par nous-mêmes de reproduire quelque chose que l'on a déjà vécu. Un exemple. Dans la Bible, il y en a plusieurs exemples hein, de cela. Il y a Samson. Samson, c'était un juge. Dieu va lui donner une force incomparable. Mais cet homme, après avoir joué et surtout après avoir péché, le Seigneur va retirer toute la force à Samson. Et le texte va dire, hein, l'Éternel s'était retiré de lui. Mais Samson va croire que Dieu est encore avec lui. Et il va chuter. Et on a aussi ses disciples qui sont dans cette même situation, ils veulent agir comme d'habitude. mais sans Christ, sans le Seigneur, et sans le Seigneur, ils sont impuissants. Un exemple, c'est comme si vous conduisiez une voiture sans mettre la clé dans le contact. Normalement, ça démarre pas, sauf si vous l'avez volé, vous avez trafiqué les fils, hein, mais hormis cette situation, s'il n'y a pas de clé, la voiture, elle peut être aussi jolie qu'elle soit, elle ne bougera pas. Et cette clé, c'est le symbole de la foi. C'est pas la clé qui agit, c'est pas la clé qui est puissante. La clé permet d'actionner le véhicule. Mais si nous nous habituons quelque part à une voiture qui roule, et on se dit la clé finalement c'est rien, on aura une voiture qui ne roule pas. De la même manière, sans le Christ, on peut faire des gestes chrétiens, des attitudes chrétiennes, sans qu'il n'y ait de puissance derrière. Un peu là, comme ses disciples. On peut tomber dans une routine chrétienne, prier mécaniquement, aller au culte, servir, mais sans dépendance vivante de Jésus. Et la foi, mes frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas une formule magique, c'est une relation réelle, vivante avec Christ, une vraie dépendance au Seigneur. Deuxième point, une petite foi suffit si elle est vraie. C'est les versets 17 à 20. Jésus va dire cette phrase, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Grain de moutarde, c'est très petit. Et pourtant, ça donne un grand arbre. Ce n'est pas la quantité ici que Jésus souligne, mais la qualité. Même minuscule, placée en Dieu, une foi devient puissante. Une foi vivante peut déplacer des montagnes, des obstacles insurmontables dans nos vies. La foi est capable de les déplacer. On a l'exemple de David et Goliath. David et Goliath, David va être face à un géant, toute l'armée d'Israël a peur. Mais lui va avoir foi en Dieu, et on va voir qu'il a foi en Dieu, parce qu'il s'avance devant Goliath sans armure, sans bouclier, juste avec sa fronde. Saül va vouloir l'équiper, lui aussi dit qu'il a foi en Dieu, mais il va vouloir être très humain. David va s'avancer avec une vraie foi en Dieu et il va abattre ce géant. Il y a aussi la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, je ne sais pas si vous voyez cette histoire, c'est avec le prophète Élie. Dieu va envoyer, histoire encore assez, l'humour de Dieu, va envoyer son prophète Élie qui a faim. Au lieu de l'envoyer dans une maison avec plein d'abondance, il va l'envoyer dans une maison où il y a une veuve avec son fils qui n'a rien à manger. Elle est pauvre, cette femme, et Dieu va lui dire « Va dans cette maison, tu trouveras à manger. » Élie arrive, il voit que cette femme n'a rien. À part une poignée de farine et un peu d'huile. Mais cette femme va croire, elle va mettre sa foi en action, et du coup, durant tout le temps de la famine, son pot d'huile et sa farine ne va pas baisser. Elle aura suffisamment à manger, parce que sa foi est mise en action. Dieu est capable de multiplier les ressources, elle ne manquera d'ailleurs jamais de rien, de nourriture jusqu'à la fin de la famine. Il y a un pasteur qui va dire ceci en commentaire de ce verset, la réponse de ce passage là qu'on vient de lire, la réponse de Jésus s'adapte plus naturellement à la demande des disciples. Il leur répond que, forte ou faible, la foi ouvre la porte à l'action de la toute-puissance divine, la seule puissance réelle dans l'univers, celle qui a posé le monde et qui en reste la maîtresse. Ici, le Seigneur ne nous demande pas une grande foi, mais une vraie foi. Une vraie foi en lui. Et la foi, c'est quoi? C'est une confiance totale. On ne s'approche pas de Dieu d'ailleurs sans la foi. D'ailleurs, bien souvent, ceux qui disent « Oui, moi je crois pas en Dieu parce que il faut qu'il me montre qu'il existe. » En fait, c'est très simple de voir Dieu. C'est croire qu'il existe. Et Dieu, c'est inversé. Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche sincèrement. Moi, je dis ça à tous ceux qui me disent que Dieu me montre qu'il existe. Et bizarrement, quand je leur dis « Mettez-vous en action, cherche Dieu avec foi et sincérité », il va te parler. Tout de suite, ça bégaye, ça cherche des excuses, ça cherche... Parce que Dieu est capable de parler. Mais uniquement, du coup, avec une foi sincère. Un cœur simple. Ça va ? Un exemple. Exemple historique. Très belle histoire. C'est l'histoire d'une église américaine dans le Tennessee. Alors, je connais pas trop aux États-Unis le Tennessee, mais je sais qu'apparemment, dans le Tennessee, c'est très montagneux. En tout cas, dans la région où cette église est, c'est très montagneux. Et cette église qui commence à grandir, à vouloir construire un bâtiment. Ils commencent à être suffisamment nombreux. Ils sont 300 personnes et l'église où ils étaient, le bâtiment où ils étaient, est devenu trop petit. Ils décident de s'agrandir et en fait, de alors, je passe les détails, mais de diviser l'église en deux pour une église beaucoup plus familiale. Ils vont construire du coup ce bâtiment, et ce bâtiment va être construit sur un terrain qu'ils vont trouver, un des seuls terrains, à flanc de colline. Il y a une colline du coup dans cette ville, et ils vont trouver ce terrain, ils vont construire ce bâtiment, et l'architecte va prendre tout l'espace disponible pour pouvoir avoir de la place. 15 jours avant l'ouverture de ce nouveau lieu de culte, il y a un inspecteur de l'urbanisme qui va venir pour donner l'autorisation d'ouverture de cette église. Mais il va se rendre compte que le parking est trop petit. Beaucoup trop petit par rapport au nombre de personnes que la salle est capable d'accueillir. Et du coup, il va refuser d'accorder l'autorisation. Et il va dire au pasteur et à tout le conseil d'administration que pour avoir l'autorisation, il faut doubler les places de parking. Sauf qu'il n'y a plus de place. À droite et à gauche, il y a déjà des voisins. Et derrière, il y a la montagne, il y a la colline qui est là. Impossible à bouger. Aucun moyen d'agrandir le parking, et du coup, 15 jours avant l'inauguration, vous imaginez, hein, l'église, certains frères et sœurs commencent à se disputer comment c'est possible qu'on n'a pas fait gaffe avant, on a mis tant d'argent dedans, voilà, la division commence à grandir. Et découragé, le conseil, le pasteur, va annoncer à l'église que le prochain sujet de la réunion de prière sera cela, que Dieu déplace la montagne pour pouvoir construire un parking en moins de 15 jours. Est-ce que vous auriez participé à ce genre de réunion de prière? On vous annonce comme ça. Moi, je vous dis sincèrement, hein, personnellement, je connais la fin de l'histoire, mais on me dit ça, je me dis, ils sont un peu tarés. Hein. Je pourrais trouver même des excuses, comme on peut l'avoir habitué, nous, chrétiens. Dieu est capable de faire, mais on va pas tenter Dieu quand même. Tu vois, on peut trouver plein d'excuses pour excuser notre manque de foi. Alors du coup, à la réunion de prière qui va suivre, ils sont 300 chrétiens à peu près. Il n'y aura que 24 chrétiens sur 300 qui vont se réunir pour prier ce soir-là. Ils vont prier pendant une heure. 24 chrétiens qui prient. Et le pasteur va conclure cette réunion en disant « Merci Seigneur, nous allons inaugurer notre nouveau lieu de culte dans 15 jours. Le Seigneur nous a conduits jusqu'ici. Il ne nous a jamais laissé tomber. Bon retour chez vous. » Vous imaginez un petit peu? C'est un vrai pas de foi hein, que cet homme fait avec les 24 chrétiens qui croient que Dieu est capable d'agir. Deux jours plus tard, le pasteur reçoit l'appel d'un entrepreneur qui cherchait de la terre pour combler un marais en vue d'y bâtir un centre commercial. Et les analyses qu'il va mener dans le coin va montrer que la montagne qui est juste derrière l'église, la terre, cette roche, correspond précisément à ce qu'il faut pour soutenir le bâtiment qui sera dessus. Et du coup, il va appeler le pasteur et il va le supplier du coup de pouvoir venir avec ses engins et pouvoir servir derrière, prendre la colline qui est derrière. Il va bien sûr proposer de payer la terre qu'il va prendre, de tout mettre à plat, de tout bitumer et d'en faire un parking, parce qu'on peut rien faire d'autre. Deux jours après. Le pasteur, lui-même n'en revient pas, il va attendre de voir, parce que c'est 15 jours, 11 jours après, tout a été fini, il y a un parking neuf derrière l'église, la montagne a disparu. Et cette histoire, elle va faire le tour de tous les États-Unis, des églises évangéliques aux États-Unis. Et dans cette petite communauté du Tennessee, il y aura beaucoup plus de chrétiens qui auront une foi à déplacer des montagnes. Parce qu'ils auront vécu quelque chose de fort, hein, le Seigneur qui est capable de pourvoir aux besoins. Cette communauté, elle n'a pas eu de signe hein, de Dieu en disant de prier pour. Ils ont prié, ils ont attendu fermement. Leur demande, elle n'était pas insensée. Elle était fidèle à ce que Dieu peut demander. C'était pour le besoin de l'Église. Et cette foi, aussi petite qu'elle soit, avec une poignée de croyants, a suffi à déplacer la colline qui était derrière. En plus, tout bénef, tout payé par l'entrepreneur qui était là. Est-ce que quelquefois vous avez l'impression, mes frères et sœurs, que votre foi est trop petite? Et quelque part, est-ce qu'il faut avoir une foi immense pour que Dieu agisse? Eh bien, ce texte nous dit que non. Si vous avez une foi petite, ça suffit. Ce qu'il faut, c'est une foi réelle, une vraie foi en Dieu. Puisqu'une foi comme un grain de moutarde est capable de nous connecter à ce Dieu qui est capable de tout changer. Du coup, ne regarde pas à la taille de ta foi, mais à la grandeur de ton Dieu. C'est lui qui est capable de faire. Et si nous nous sentons faibles, que nous puissions placer notre confiance dans le Seigneur Jésus, lui est capable d'agir. Ça va ? Et dernier point, c'est la foi qui dépend de Dieu dans la prière. C'est le verset 20. Jésus va dire cette phrase qui, moi, m'a posé beaucoup de questions. Il va conclure ce passage en disant, après voilà, de demander à, si on a une foi comme une graine de moutarde de déplacer une montagne, on est capable de le faire. Il va dire, rien ne vous sera impossible. Jésus conclut en disant cette phrase, rien ne vous sera impossible. Du coup, je vous pose une question. Est-ce que cela veut dire que je peux tout réaliser si je crois assez fort ? Non, mais du coup, qu'est-ce que Jésus veut dire ici ? Quand il dit que rien ne vous sera impossible. Selon sa volonté à lui, effectivement. Alors, Jésus le précise bien avant. Les demandes ici, c'est en lien avec ce que Dieu veut. Ce n'est pas encore une fois nous qui agissons, nous ne sommes pas des magiciens ici, c'est laisser l'action de Dieu agir. Quand Jésus dit « rien ne vous sera impossible », il parle de ce qui est possible avec Dieu, pas de ce qui est possible selon notre propre volonté ou nos désirs égoïstes. La foi, ce n'est pas une baguette magique. Elle place nos vies et nos actions dans le cadre de la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y aura un passage, hein, d'ailleurs, où il y aura Simon le magicien. Je ne sais pas si vous voyez ce passage. Simon le magicien qui va vouloir reproduire, il va trouver ça fou que les apôtres, quand ils prient, ou même quand ils marchent dans la rue, leur ombre suffit à guérir les malades. Et Simon va vouloir, il ne va pas vouloir de Dieu, il va vouloir refaire la même chose. Il va dire, mais d'où vous vient cette puissance ? J'ai envie de faire pareil. Ça n'a pas marché. Les apôtres vont le reprendre sévèrement. La foi, du coup, ce n'est pas être des magiciens, c'est une foi vivante centrée sur le Christ. Si nous avons une communion personnelle à Dieu, nous connaissons ce que Dieu veut pour nous, dans nos obstacles personnels, dans nos défis spirituels qui nous empêchent d'avancer vers Dieu, on peut placer pleinement notre foi. Dans cet exemple du Tennessee, hein, l'obstacle ici, c'était qu'il n'y avait pas d'ouverture de culte possible, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour une église. Ils n'ont pas demandé à Dieu d'avoir chacun une Ferrari. Peut-être que d'ailleurs il y a plus de monde à la réunion de prière, hein, je ne sais pas. Non, ils ont demandé à Dieu de déplacer la montagne derrière pour avoir un parking, pas pour le bon plaisir de voir Dieu être à l'œuvre, non, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas d'autre solution. Et le désir qu'ils avaient était bon. Encore une fois, quand ici Jésus va dire que rien ne vous sera impossible, dans le cadre de sa volonté. Mais dans le cadre de sa volonté, effectivement, rien n'est impossible à Dieu. Et bien souvent, nous, on limite Dieu, alors qu'on sait ce que Dieu veut pour nous, on le limite. On va l'enfermer. Autrement dit, notre foi, ce n'est pas notre foi qui est magique, c'est Dieu qui agit par notre foi. Et comme dit Jésus, une foi, une petite foi, correctement tournée vers le Seigneur, peut déplacer les montagnes spirituelles et personnelles les plus énormes. Et ce ne sera jamais pour satisfaire nos caprices ou désirs contraires à sa volonté. Alors est-ce que cela fait de nous des magiciens ? Non. Encore une fois, la foi ne fait pas de nous des magiciens, elle fait de nous des instruments entre les mains d'un Dieu tout-puissant. Le même Dieu, comme l'a dit ce pasteur, hein, qui a créé l'univers, est capable de nous connecter avec foi pour que nous puissions voir sa main dans notre vie. Et cette foi, elle s'exprime par la prière. Reconnaître que nous sommes impuissants et que Dieu est tout-puissant. On va voir cet exemple biblique, hein. Avec le prophète Élie au mont Carmel, 1 Roi chapitre 18. Élie, à ce moment-là, c'est un des grands prophètes du temps d'Israël, mais il est tout seul. Tout le peuple est idolâtre, est infidèle à Dieu, et le roi de l'époque est complètement infidèle à Dieu avec la reine Jézabel. Tout le monde est contre Dieu. Et Dieu va demander des choses fortes à Élie. Et Élie aurait pu douter. Et il y a un moment, dans 1 Roi chapitre 18, Élie va défier les prophètes de Baal. Les prophètes des idoles, Et il va leur donner un défi. Il va même pas prier Dieu, hein, vous allez voir le texte, hein, il ne prie pas Dieu. Il donne un défi au prophète. En disant, si votre Dieu existe, on va monter un autel chacun. Et celui qui fera tomber le feu sur l'autel, le peuple verra qui est le vrai Dieu. Élie ne prie pas avant pour demander la volonté de Dieu, mais sa demande est juste. C'est pour tourner le peuple vers le Seigneur. Du coup, il met sa foi en action. Il aurait pu se dire, attends, je demande quelque chose de fou à Dieu quand même là. Je pourrais lui demander, je sais pas, autre chose de plus raisonnable. Il demande quelque chose de fort. Ils vont monter des autels. Les prophètes de Baal vont danser, tourner en rond, rien ne va se passer. Et quand Élie va prier, le feu va descendre et va tout consumer. Ce n'est pas Élie qui a fait le miracle, mais c'est Dieu qui a agi en réponse à la foi. À la foi d'Élie. Mes frères et sœurs, ce Dieu-là, c'est le même aujourd'hui. Et dans vos défis personnels, Dieu nous attend dans la dépendance totale à lui, pour que lui puisse agir. Alors, un des obstacles à cela, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir agir par nos propres forces, plutôt que de dépendre de Dieu. Et peut-être c'est un des dangers pour nous, c'est finalement avoir cette foi d'enfant. Ne pas nous dire des choses et commencer nous-mêmes à aider Dieu, mais lui faire complètement confiance. Et le vrai combat spirituel ici, du coup, ce n'est pas d'avoir beaucoup de foi, mais d'apprendre à dépendre totalement de Jésus dans la prière. C'est un vrai défi, hein, mes frères et sœurs. C'est un vrai défi puisque Dieu nous demande d'avoir cette foi d'enfant. Cette foi, rappelez-vous, quand Dieu vous a parlé, a touché votre cœur, où vous étiez capable d'absorber tout ce que Dieu était capable de vous dire, et malheureusement, quand on grandit dans notre foi, alors ça arrive pas à tout le monde, hein, mais malheureusement, quelquefois, on devient beaucoup plus dur. Et on laisse le Seigneur un peu de côté, malgré tout ce que l'on peut dire. Mais à nous de pouvoir vivre cette foi entière et sincère. Pour conclure, j'ai mis une synthèse. Voilà, une foi impuissante sans le Seigneur, sans le Christ, finalement n'est rien. Nous ne devons pas agir par habitude, parce que on a prié une fois il y a je sais pas combien de temps, et Dieu a parlé comme ça, et du coup je recommence. Non, c'est se replacer constamment dans les mains du Seigneur. S'attendre à lui de manière différente, parce que Dieu agit différemment selon les contextes. Et s'attendre réellement à lui. Le deuxième point, c'est une foi vivante centrée sur le Christ. Ce n'est pas la taille de la foi qui compte, mes frères et sœurs. Si ce matin vous avez une petite foi, dans plein doute, sachez que cette petite foi, si elle est réelle, Dieu est capable de l'utiliser. Et une foi qui dépend de Dieu dans la prière. La vraie puissance n'est pas dans nous, dans ce que nous sommes, mais en Dieu. Cette prière, elle nous branche quelque part à sa force, à ce Dieu qui est capable d'agir dans toutes les circonstances. En résumé, la foi, ce n'est pas une performance, mais une dépendance. Une dépendance totale au Seigneur. Ce n'est pas notre foi qui fait des miracles, mais c'est Dieu qui agit au travers d'elle. J'ai pris un exemple. La foi, comme je dis, c'est comme une clé. Et ce n'est pas la clé en elle-même qui a de la puissance, mais la porte qu'elle ouvre. J'ai la clé de chez moi, là, dans mon sac. Cette clé, c'est un bout de métal. Pourtant, elle a la capacité d'ouvrir la porte de chez moi. C'est énorme, hein, quand même. Mais c'est pas cette clé qui fait quelque chose. C'est ce que cette clé est capable de faire. Mais cette clé, c'est un bout de métal. La foi, c'est la même chose. C'est cette clé. Elle peut être aussi petite qu'elle soit. Mais si nous avons confiance en Dieu, elle est capable d'ouvrir les portes les plus fermées dans nos vies. Là où nous bataillons et nous n'arrivons pas à avancer. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu nous dit, hein, que si nous avons cette petite foi, il est capable de déplacer des montagnes. Trois questions avant de conclure et de prier. Est-ce que je vis ma foi comme une routine chrétienne, comme une dépendance vivante à Jésus? Est-ce que je mets ma confiance dans mes efforts ou dans la puissance de Dieu? Et est-ce que ma foi se nourrit chaque jour dans la prière? Puisqu'encore une fois, c'est la prière, ici, la clé.